Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Édouard Balladur, relaxé par la Cour de justice de la République dans l'affaire Karachi, François Léotard condamné à 2 ans de prison avec sursis. Pour la crise sanitaire, l'exécutif choisit à nouveau de ne pas appuyer sur le frein. Pas de confinement de week-end dans Paris et sa région, mais seulement pour le Pas-de-Calais où les hôpitaux sont pleins. En Allemagne, à l'inverse, Angela Merkel va déconfiner avec beaucoup de prudence. La plupart des commerces fermés depuis la mi-décembre ne rouvriront pas avant la fin mars. La suppression des remises automatiques de peine pour les détenus provoque un tollé. Éric Dupond-Moretti est allé défendre sa mesure ce matin à la maison d'arrêt de Villepinte. Et puis manifestation des intermittents du spectacle ce midi à Paris et dans plusieurs grandes villes contre l'arrêt de la culture. Invité d'Europe Midi, le professeur Didier Pictet, médecin suisse, co-inventeur du gel hydroalcoolique, chargé par le président Macron d'évaluer la gestion de crise en France.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Paris et sa région vont donc échapper pour l'instant au confinement de week-end. L'exécutif a laissé filtrer son arbitrage hier soir sans attendre la conférence de presse de Jean Castex aujourd'hui à 18h. Mais la foudre devrait s'abattre sur un seul département, le Pas-de-Calais, où le taux d'incidence dépasse les 400 cas pour 100 000 habitants, presque le double de la moyenne nationale, et où les hôpitaux sont pleins. Maximilien Carlier, vous êtes à Lens.
Oui, effectivement, Patrick, ici, tous les lits en réanimation sont utilisés. Des malades qui arrivent, il y en a chaque jour, une situation critique. Docteur Thévenin, médecin réanimateur au centre hospitalier de Lens.
C'est très compliqué, la tension, elle est maximum. Nous avons atteint des chiffres de présence de patients Covid-19 qui sont supérieurs à ce que l'on a eu dans l'année. C'est-à-dire que là, nous sommes aux alentours de entre 80 et 90 patients présents dans l'hôpital, avec des arrivées qui sont en moyenne de 4 à 5 patients par jour, donc au niveau des urgences.
D'après ce spécialiste, les soignants sont usés, fatigués, et ce reconfinement va permettre de les soulager un peu. Mais ces restrictions, eh bien, elles ne sont pas forcément bien comprises par les habitants. Pourquoi eux et pas la Seine-Saint-Denis?
On a toujours été le Pas-de-Calais, on a toujours été des têtes de turc quand même par rapport à Paris. C'est chiant, on va dire qu'on reste enfermé avec des enfants. C'est l'enfer à la maison. Mais bon, on fera un jeu de société, on se débrouillera comme on peut, mais bon, ça dure pas longtemps.
Et l'interrogation, c'est justement sur la durée de ce confinement, 3, 4 week-ends, on ne sait pas encore, le plus court possible pour ces Lensois.
Maximilien Carlier à Lens pour Europe 1. Hormis les habitants du Pas-de-Calais, donc, les Français vont garder le droit de sortir ce week-end. Fin janvier, Emmanuel Macron avait déjà pris tout le monde à revers en décidant de ne pas reconfiner le pays. Là encore, pour la deuxième fois, le président impose l'option la plus basse, la moins contraignante, et c'est un choix très politique, Jean-Rémy Baudot.
Très politique et assumé. L'entourage du président le répète. Pour Emmanuel Macron, le confinement est l'ultime solution. Si on peut éviter le confinement le week-end, on le fait, expliquait cette semaine le président en privé. D'où ce choix, tenter de gagner du temps pour que la vaccination et peut-être le retour du printemps permettent de réduire un peu la pression. Évidemment, ça n'est pas sans créer des tensions, même au sein du gouvernement. Il se dit que le président serait parfois un peu seul face à son Premier ministre et son ministre de la Santé. La réalité est sans doute un peu plus contrastée. Le Conseil de défense, c'est un terrain de débat, pas une bataille de tranchées, tempère un conseiller d'Olivier Véran. Pas un combat, mais en pratique, un président qui choisit et un exécutif qui exécute. Le Premier ministre jouant souvent bien le rôle des porte-voix, ce sera encore le cas ce soir. Un choix logique d'un point de vue politique. L'exemple de Paris et de l'Île-de-France est éclairant. Aucun consensus des acteurs locaux. Les chiffres sont limites, mais pas encore totalement critiques. L'Élysée gagne donc du temps et s'évite éventuellement de nouvelles polémiques. Sachant qu'à la fin, tout le monde le sait, il n'y a qu'une seule personne qui sera comptable des choix dans cette pandémie. Et ça explique la stratégie. C'est Emmanuel Macron lui-même.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. La France tente de tenir en refermant le moins possible au moment où l'Allemagne se prépare à rouvrir le plus doucement possible. Angela Merkel a annoncé hier soir, après 9 heures de tractation avec les dirigeants des 16 Länder, le déverrouillage progressif d'un pays où les commerces, la plupart des commerces, sont fermés depuis la mi-décembre. Les régions voulaient ouvrir plus vite. La chancelière continue d'appuyer sur le frein. Et là aussi, Hélène Kohl, vous êtes à Berlin pour Europe 1. C'est un compromis très politique qui a été trouvé.
Oui, il a fallu, vous l'avez dit, des heures de discussion pour arriver à ce tableau d'une page qui détaille palier d'incidence par palier d'incidence, les assouplissements envisageables dans les prochaines semaines. Par exemple, on y apprend qu'on pourra dès lundi de nouveau se réunir à 2 familles en intérieur, que les musées vont rouvrir à Berlin, par exemple, avec un système d'inscription à l'avance, et que si la situation reste stable avec une incidence largement sous les 100, on pourra retourner au cinéma et au théâtre dans 15 jours à condition de présenter un test négatif. L'État va prendre en charge désormais un test par semaine et par personne. Jusqu'à présent, il fallait payer pour se faire dépister ici. Dès lundi, on pourra aussi acheter dans les supermarchés des tests à faire soi-même. En revanche, aucun changement à espérer en vue d'une réouverture des magasins. Tant qu'on ne passe pas sous la barre des 50 cas pour 100 000 habitants, la chancelière aurait même voulu garder comme objectif le seuil de 35. Mais les présidents de région se sont chargés, un peu brutalement semble-t-il, de lui faire remonter la lassitude des Allemands. Il fallait envoyer un signal d'ouverture au risque de réveiller la colère que les élus régionaux craignent bien plus que Merkel. La chancelière, vous le savez, ne se représentera pas en septembre, alors que les élus régionaux, eux, compte pas moins de 7 scrutins cette année, dont 2 dès la semaine prochaine.
Eh oui, ça change tout. Hélène Kohl, la correspondante d'Europe 1 en Allemagne, on reparlera de ces situations épidémiques contrastées tout à l'heure avec notre invité Didier Pittet. Bientôt peut-être des vaccins russes en Europe. L'agence du médicament annonce qu'elle va évaluer le Sputnik V. Et dans la foulée, les autorités russes se disent prêtes à fournir des vaccins dès le mois de juin à 50 millions d'Européens. Nouvelle manifestation en Birmanie, malgré la peur et le sang versé. Au lendemain de la journée de répression la plus meurtrière depuis le coup d'État, au moins 38 manifestants tués selon l'ONU. Parmi eux, une jeune fille de 19 ans, Kyal Sine, devenue vite un symbole. Une foule importante s'est rassemblée tout à l'heure à Mandalay, la deuxième ville du pays, pour ses funérailles. Hier soir encore, Emmanuel Macron a exhorté à un arrêt immédiat de la répression, tandis que Washington appelait la Chine à user de son influence auprès des généraux.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant la suite, la relaxe pour Édouard Balladur au procès de l'affaire Karachi.
Europe Midi. Patrick Cohen.
La justice reconnaît enfin mon innocence. Déclaration à l'instant d'Édouard Balladur, relaxé après 25 ans après sa campagne présidentielle malheureuse. L'ancien chef de gouvernement était accusé de financement occulte. Son ancien ministre de la Défense, François Léotard, lui, est reconnu coupable. Chloé Triomphe, vous venez de suivre la lecture de la décision de la Cour de justice de la République.
Oui, effectivement, relax total pour Édouard Balladur. Pourtant, dans les motivations de son jugement, la Cour a estimé que les 10 millions de francs retirés d'un compte suisse sont, je cite, « opportunément rendus le compte de campagne en profond déficit du candidat présidentiel en 95 ». Mais cela ne permettait pas de prouver catégoriquement qu'il s'agissait bien d'argent. Une relance difficile à accepter pour l'avocat des familles de victimes de l'attentat de Karachi, maître Olivier Maurice, qui conteste la légitimité de la Cour de justice de la République.
Quand est-ce qu'enfin les hommes politiques français décident de supprimer la Cour de justice de la République ? Parce que franchement, je comprends la déception des familles des victimes parce que on n'a pas l'impression que cette Cour de justice de la République est en capacité de rendre une justice sereine. Il y a parmi cette Cour des proches d'Édouard Balladur, des gens qui ont fait un parcours politique avec lui. Et ça jette une certaine ombre sur cette décision qui vient d'être rendue.
Quant à François Léotard, la Cour a estimé qu'il ne pouvait ignorer les négociations autour de ses contrats d'armement et n'a pas apprécié son absence de justificatif de revenus, ses 4 moutons et ses 2 voitures à crédit comme seul patrimoine. La Cour l'a donc condamné à 100 000 euros d'amende.
Chloé Triomphe, en direct de la Cour de justice de la République pour Europe 1, et pardon pour la mauvaise qualité de la transmission au tout début de votre papier, Chloé. Justice encore avec l'annonce par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, de la future suppression des réductions automatiques de peine pour les détenus, mesure surprise qui suscite un tollé chez les magistrats et avocats. Depuis 2004, c'est un dispositif qui octroie à chaque détenu, sauf mauvaise conduite, une réduction de peine de 3 mois la première année et 2 mois les années suivantes. Le ministre veut à l'avenir s'en remettre au juge d'application des peines. Il est allé défendre cette idée ce matin à la maison d'arrêt de Villepinte devant Justin Morin.
Moi, je veux un seul système qui valorise l'effort, le travail, l'apprentissage de la lecture, les soins, la psychothérapie, rien que le fait de se lever le matin à l'heure. Pour certains jeunes, c'est un effort qui sera pris en compte. Ces efforts, ils seront évidemment envisagés par le juge de l'application des peines à l'aune des capacités de chacun, à l'aune de la possibilité ou non de travailler. Il y a des établissements pénitentiaires qui n'offrent pas le travail suffisant. Et le ministère travaille activement, et c'est son effort à lui, pour faire venir ici des entreprises au sein de la prison. Voilà le sens de cette mesure, de cette réforme. Elle n'a pas pour but de diminuer le quantum des réductions de peine. Elle a pour but de faire en sorte que désormais ces réductions de peine correspondront à un effort et une bonne conduite.
Éric Dupond-Moretti avec Justin Morin. La justice bouillonne et la culture s'impatiente. Toujours pas de perspective ou de calendrier de redémarrage pour le spectacle vivant. Les salariés bénéficient du chômage partiel. Les intermittents sont indemnisés, mais parfois pas suffisamment pour vivre ou pour garder le même métier. Manifestation aujourd'hui dans plusieurs grandes villes. Angèle Châtelier, vous nous appelez depuis la place de la République à Paris.
Oui, qui se remplit petit à petit de plusieurs milliers de personnes, des artistes pour la plupart. Sur certains panneaux, des messages comme « Dis, quand reviendras-tu » en référence à une chanson de Barbara, un dessin d'Emmanuel Macron aussi grimé en coronavirus. « Il faut que la culture reprenne vie », martèle Denis Gravouille, président de la CGT Spectacle. Des milliers d'intermittents sont en situation précaire.
La situation sociale, elle est catastrophique. On a des musiciens, des techniciens qui bossent sur des festivals qui n'ont pas travaillé depuis un an. Alors certes, on leur dit « Oui, mais vous avez eu une prolongation des droits à l'assurance chômage pour éviter d'arriver en fin de droit. » Mais ça signifie vivre avec 40 euros par jour pour la plupart des gens. On a des chiffres qui nous disent que s'il n'y avait pas eu la prolongation de l'année blanche une première fois, c'est la moitié des artistes qui se retrouvaient sans rien, sans aucun revenu.
Oui, même si l'année blanche a limité la casse, beaucoup d'intermittents ne vivent qu'avec la moitié de leur salaire habituel et elle se termine en août. Qu'elle soit prolongée, c'est leur revendication principale, car pour toucher leur indemnisation ensuite, ils devront justifier d'un certain nombre d'heures travaillées. Mais où ? Tout est fermé depuis un an. Alors pessimistes, certains se sont déjà reconvertis dans des métiers moins incertains. Fredo, lui, éclairagiste, a profité de ses mois de disette pour faire une formation en technique, mais c'était surtout pour s'occuper. Abattu, il a du mal à payer son loyer.
Que là, c'est que des promesses, on y dit peu. Peut-être cet été ça va jouer, assis, debout, quoi. Enfin on ne sait pas. Donc c'est, y a même pas une date en vrai. Donc c'est juste du à peu près quoi.
Une date de réouverture l'aiderait à se projeter. En attendant, comme les milliers de personnes déjà présentes, place de la République, il ira marcher en musique jusqu'à la Madeleine pour revendiquer son droit d'exister.
Angèle Châtelier, place de la République à Paris pour Europe 1. Un mot enfin sur la disparition d'un grand jazzman américain et d'une légende de la batterie, Duffy Jackson, musicien virtuose, batteur d'une énergie et d'un swing époustouflant. Il a accompagné Count Basie, Lionel Hampton, Sammy Davis Jr. Il est souvent venu en France pour des shows qui laissaient ébahis tous les apprentis. Anti-batteur allait regarder sur la toile sa battle avec Lionel Hampton. Duffy Jackson, qui était la joie de vivre incarnée sur scène, vient de mourir à Nashville. Il n'avait que 67 ans. Le temps. Anissa a dit des températures en baisse et de l'humidité sur la moitié nord.
Oui, dans le nord-ouest de la Normandie aux Hauts-de-France. Alors là, nous avons des averses depuis ce matin qui deviennent plus éparses dans l'après-midi. En fait, la perturbation qui est arrivée cette nuit, elle est en train d'avancer et elle va toucher cet après-midi l'Auvergne, le Limousin et le Grand Est avec des ondées. En fin de journée, les averses vont vraiment se concentrer sur l'Alsace et le Grand Est, avec même de la neige qui arrive à partir de 1000 mètres d'altitude sur les Vosges. Sur la moitié sud, le temps reste sec, mais le ciel est un petit peu plus laiteux, avec même quelques passages nuageux sur le golfe du Lion, où là, les entrées maritimes restent très tenaces et le ciel sera gris pour vous du côté du Languedoc-Roussillon. Les températures, vous le disiez, Patrick, elles baissent, avec seulement 7 degrés à Lille cet après-midi, 10 à Aurillac, 12 degrés pour Paris, Rouen et Belfort, 13 à Nancy, 14 à Strasbourg, 16 degrés à Bastia, 17 à Lyon et 19 la maximale pour Mont-de-Marsan. Demain, encore un temps instable et le retour du soleil pour samedi et dimanche, mais gardez les manteaux près de vous.
Merci à vous Anissa.